Nous sommes mercredi 28 février 2024 et vous écoutez le Dojo Bar.
Bah
bonsoir à tous, bonsoir Mecton.
Et bonsoir.
Et bonsoir Jean.
Bonsoir.
Une émission un petit peu intimiste. Nous avons quelques absents ce soir qui travaillent, qui sont dans le train, qui font d'autres choses.
Chez moi, on appelle ça des social traîtres. Mais tu peux appeler ça un absent. Pas de soucis.
Voilà. Alors, c'est la reprise. Comme d'habitude, Nintendo nous a un petit peu guac, hein, j'ai envie de dire.
Non, mais c'était comme d'hab, quoi. Impressionnant.
C'est impressionnant. 9 heures. Hein. La dernière fois, c'était 20 minutes, donc on a pas battu le record, mais... every fucking damn time, quoi.
Ouais.
Non, ils sont forts. Ils sont très très forts. Donc, nous avons eu un Nintendo Direct Partner Showcase, et ce sera la toute première partie de l'émission, et ensuite, nous allons parler de Prince of Persia en deux gros morceaux, on va dire. L'objectif pour cette saison, je vous le dis, c'est de réduire un petit peu le temps des émissions. LOL. Non, mais c'est très très drôle comme blague.
C'est pas l'objectif depuis 20 ans.
C'est l'objectif depuis que l'émission existe. À l'origine, elle devait faire 45 minutes. Ça n'a jamais fait 45 minutes. Non, mais voilà. Mais l'idée, c'est de se dire, voilà, on va passer une petite heure ensemble. Une grosse heure ensemble.
On est bon, parti. À demain, quoi.
Voilà, voilà. On va faire ça comme ça. Donc, on est parti pour une petite heure d'émission. On va commencer par les trucs un peu importants de ce Nintendo Direct Partner Showcase. Donc, c'est pas un vrai Nintendo Direct, hein, pour ceux qui l'ont compris.
La vitrine des c'est partenaires. La vitrine.
C'est la petite vitrine des partenaires. Il n'y a pas de jeu de Nintendo, gros jeu de Nintendo annoncé. Mais on a quand même eu. On va faire un petit teaser. Il y a quand même eu un Pokémon Presents de 13 minutes. Donc autant vous dire que.
Ça, c'était hier. Ouais.
C'est ça, ça a été extrêmement réduit. Mais voilà, vous vous foutez de la gueule dans le chat, là, tout le monde se fout de la gueule en se disant « Mais c'est bon, c'est 40 fois 5 minutes, voilà, 45 minutes !» C'est des connards. On essaye vraiment de faire une émission de qualité, c'est très compliqué. Bref, on va commencer ce petit tableau. Alors, sur le Nintendo Direct Partner Showcase, donc il y a quelques trucs qu'on va volontairement oublier, parce que c'est pas des choses particulièrement... importante. On va commencer par un petit truc qui va peut-être faire plaisir à Mecton, donc il va faire plaisir à Mecton, nous le savons tous, c'est Disney's Epic Mickey Rushed.
Alors, ce que je racontais à ma copine, c'est, je sais pas si vous vous rappelez, régulièrement à chaque fois qu'il y a un direct qui était annoncé, dans mes pronostics à la con, je disais Epic Mickey. Ça n'est jamais arrivé. Ce coup-ci, je fais pas la blague, et ça arrive.
Et je pense que Nintendo te troll aussi.
Mais ouais. Et ouais, bah, je suis content, c'était un bon petit jeu d'aventure bien sympatoche, des bons souvenirs. Si vous aimez alors pas la culture Disney, mais l'histoire de Disney, les débuts, il s'est pété de clins d'œil dans tous les sens, dont Oswald le lapin, hein, pour les connaisseurs. Et non, c'est bien, c'est sympa, et ça, le même vibe qu'un Darksider, j'ose.
Ouh. Alors, si je peux me permettre, moi j'ai essayé, j'ai pas du tout aimé le game feel. Mais bon.
Ah ouais, bon ça peut se comprendre.
C'est étrangement glissant en fait. Je trouve ça bizarre.
C'est marrant, j'en ai pas le souvenir. Après bon voilà, le jeu a 15 ans, donc comme on dit, mes souvenirs sont en HD. À voir ce qu'ils en font. Je suis curieux de savoir si c'est toujours Warren Spector qui est planqué derrière la production. Donc Warren Spector, Monsieur Deus Ex, hein, pour les...
Oui, tout à fait.
Pour les gens. Tout à fait.
Monsieur Deus Ex, qu'est-ce que c'est que ça?
Juste, attendez. J'avais d'ailleurs une question, c'est Epic Mickey ou c'est Epic Mickey 1 et 2?
Ah, a priori, c'est que le premier, ouais.
Ah, c'est peut-être un peu dommage, là. Il y a peut-être un petit raté. Enfin, c'est dommage.
Oui, mais bon, ils ont raté Mario Galaxy 2, donc...
C'est vrai. World of Goo 2, alors ça c'est une bonne nouvelle. Alors je dis pas qu'on l'attendait, mais c'est vrai que de World of Goo, ça a été un des premier jeu indé à faire beaucoup de bruit, je dirais. Parce qu'on avait beaucoup beaucoup d'informations qui arrivaient. C'est un très bon jeu, World of Goo. En tout cas, ça fait très très plaisir de le revoir. Voilà, on nous a pas montré beaucoup beaucoup de nouveautés, donc on colle toujours des bibis sur des trucs pour faire des constructions plus ou moins alambiquées pour aller d'un point A à un point B sur la carte. C'est toujours un peu ça, c'est un espèce de mélange entre un jeu de Lego et Lemmings. Ça a l'air de plutôt bien marcher. Après, il faut voir que le deuxième jeu de... Je me souviens plus comment il s'appelle.
Ce studio. T'as le truc qu'il fallait... C'est pas grave. C'est le jeu où il fallait faire cramer des trucs, là.
Ouais, c'est ça. Inferno, quelque chose comme ça.
Little Inferno.
Little Inferno, qui était pas foufou.
La fin était cool, mais ça ramait du cul pour y arriver.
Ouais, c'est ça. C'était très, très, très laborieux. Mais bref, on est content de revoir World of Goo. Donc, je tenais à le signaler. Ça faisait partie des jeux un petit peu emblématique de la Wii, notamment, puisque ça a été un des jeux WiiWare qui s'est très très bien vendu, et qu'à peu près tout le monde avait acheté à l'époque où c'est sorti, donc ça fait quand même plaisir. On a eu un petit Endless Ocean Luminous.
Et c'est curieux, pas comme on en discutait en off, je suis curieux.
Alors, Endless Ocean, c'est une série qui a démarré, et qui à l'origine a démarré et fini sur Wii, qui était quand même édité par Nintendo. Il y a eu Endless Ocean et Endless Ocean 2. Donc Endless Ocean, le premier, est plus une espèce de jeu d'exploration dans la mer. Très très zen, très très calme, zen. Voilà.
Une BO superbe.
C'est ça. Et Endless Ocean 2 prend la forme, alors c'est le même fond finalement, mais prend plus la forme d'un jeu d'aventure dans lequel on doit quand même plus ou moins résoudre un mystère. Qui pollue l'océan? Ou qu'il est le gros bateau des pirates qui a coulé. Enfin voilà, il y a un peu plus d'aventures, d'histoires, de machin, mais c'est rigolo. Voilà, ça reste des jeux très détente, très zen, très... on se laisse porter par
contemplatif.
La musique, l'ambiance, voilà. Donc faut pas s'attendre à un gros jeu d'action bourrin, c'est pas Doom sous l'eau. Mais voilà, pourquoi pas. J'y dis pourquoi pas, c'est une belle surprise, on s'attendait pas à revoir Endless Ocean, qui est encore une licence qui est morte il y a facile 10 ans.
Non, clairement, tu vois, en y repensant, j'aurais misé sur un Excite quelque chose, mais pas du tout Endless Ocean.
C'est clair. Mais après, ça a l'air cool, hein, vraiment. Puis avec des visuels un peu d'été, parce que sur Wii, c'est vrai que c'était quand même relativement moche.
À se dire.
N'ayons pas peur des mots.
Non, mes souvenirs sont en HD.
C'est ça. Il y avait un sacré upscaler dans ton crâne, hein, parce que là, c'est chaud patate. Voilà, on a eu 5 titres rares dispo sur Nintendo Switch Online, donc dans l'ordre Snake Rattle and Roll sur NES, RC Pro AM sur NES toujours, qui est un très bon jeu. Si c'est bien, RC Pro AM c'est très très bien, on fait pas assez de NES en direct, il faudrait qu'on arrive à en faire un peu plus. Killer Instinct sur Super NES, alors ça c'est cool. Et en y rejouant, là je confirme, mes souvenirs étaient en HD.
Ah oui, là par contre, oui.
même au niveau gameplay, en fait, je me rappelais d'un jeu très très nerveux, et quand j'étais petit, j'avais vraiment l'impression que quand tu sortais un 13 hit combo, t'étais le roi du monde, enfin que t'avais fait un truc de fou,
non, mais en fait...
t'avais transpiré, mais en fait pas du tout.
Voilà, en fait pas du tout, c'est pas si nerveux que ça.
C'est pas mou, hein, mais c'est vrai
ouais,
que...
Ouais, c'est pas non plus... C'est pas Street Fighter non plus, quoi.
C'est ça. C'est vrai que d'y rejouer, ça fait un petit peu bizarre. On nous souffle dans le chat, il y a eu Mother 3 au Japon.
Oui. Coucou Zergy, d'ailleurs.
Désolé.
Merci, Reggie.
J'ai une confession.
Je réalise que j'ai toujours confondu Killer Instinct et Rise of the Robots.
Oh putain, quel gros bâtard.
Bannez-moi.
Ah oui, putain. Mais surtout, Killer Instinct, c'est vraiment... Moi, c'est un de mes jeux fétiches sur Super NES. C'est vraiment un très très bon souvenir d'enfance. Parce que c'est... Je très gros fan de Mortal Kombat ici. Et c'est vrai que Killer Instinct, c'est quand même le niveau du dessus, quoi. T'as vraiment... T'as tout un méta-jeu qui est... où Mortal Kombat n'arrive pas à la cheville du truc sans problème. Killer Instinct, très bon jeu. Mais malheureusement, voilà, ça aurait peut-être été mieux qu'on ait la version arcade. On aurait peut-être un peu plus profité. Bref. Battletoads in Battle Maniacs, alors c'est un des jeux fétiches de Cyrare, il faut le savoir, sur Super Nintendo. Donc c'est un jeu de la série Battletoads, hein, tout bêtement. Et Blast Corps pour N64, alors ça je sais que... je crois que c'est... Alors je sais plus si c'est Cyrare, si c'est... Enfin, je sais que c'est un jeu très apprécié de la vieille garde du dojo. Voilà, qui disait c'est rigolo. Alors, le principe de Blast Corps, c'est très simple. Il y a un camion qui est chargé d'un explosif quelconque. Et il peut plus tourner, donc il faut détruire tous les bâtiments qui sont devant lui pour qu'il puisse traverser la carte. C'est extrêmement con.
Putain, c'est ce jeu!
Mais oui.
Mais c'est bien ça!
C'est très bien.
Non, c'est
bien. C'est extrêmement con, mais c'est très très bien. Ce que j'aime beaucoup, c'est voilà, c'est plus rentable d'aller détruire tous les buildings qui sont devant le camion plutôt que d'essayer d'arrêter le camion. Moi, je trouve ça
logique capitaliste.
C'est ça, il y a un côté très second degré. Bah voilà. Hein. On a eu ensuite, vous me direz si j'ai des bêtises, mais Star Wars Battlefront Classic Collection.
Surprenant.
Donc rien à voir avec la version Electronic Arts, hein, je précise, qui était Star Wars Battlefront Lootbox Collection. Lololol. Voilà, une réédition des classiques Star Wars Battlefront de la Xbox. Il me semble que c'est une exclusivité Xbox, je pourrais me tromper.
Il me semble avoir bien joué aux deux avec des copains sur PC à la fac.
Alors peut-être sur alors, Xbox et PC du coup.
Oui.
Je crois que Battlefront c'est sorti sur toutes les consoles.
Alors c'est pas sorti sur GameCube, c'est sûr.
Ah bon ?
Ah bah oui.
Alors peut-être PC
Xbox et PS2. PS2, ça me paraît...
Si, il me semble avoir... Alors, sur le dojo, il me semble avoir fait un comparatif des graphismes entre Xbox, PC et PS2, et la PS2 est ignoble.
Renard nous dit le 2 est sur PS2.
Le 2 est sur PS2. Donc là, c'est Star Wars Battlefront 1 et 2. Donc, je rappelle, c'est des jeux, entre guillemets... Ça, c'est des... J'allais dire du massivement multijoueur. C'est pas déconner non plus.
Ouais, c'est quoi, 64 ?
64 joueurs, ouais, c'est ça. Mais c'est surtout... c'est un Battlefield.
Oui, c'est un truc un peu style Warhammer, mais enfin pas vraiment, mais dans le sens, dans l'échelle de grandeur, on va dire, mais avec plein de vaisseaux Star Wars et de gens.
C'est ça.
Et c'est chouette.
Et c'est très très cool comme jeu. C'est vraiment vraiment très amusant. Effectivement, il y a une version PSP qui, alors peut-être une version du 2, j'en sais rien, mais voilà. Donc ça fait plaisir. Le jeu fait 25 Go, j'ai vu ça dans les
détails.
Donc ça veut dire que les mecs ils sont un peu lâchés sur les assets, je pense, parce que les jeux d'origine ouais, vont probablement pas faire 25 Go.
Ou alors ils ont compressé que dalle et ça charge instantanément.
C'est possible. Il y a une annonce un petit peu curieuse de Pentiment qui était à l'origine une exclusivité Xbox, qui maintenant est sur toutes les machines. A priori, ce sera pas la première, ce sera pas la dernière, donc je le signale juste pour ça. Voilà, les exclusivités Xbox ne sont plus des exclusivités Xbox.
Ça c'est... l'a jamais été, vu que c'est... Xbox est sur PC.
Oui, mais si tu veux, quand tu... pour pouvoir jouer à ton jeu Xbox sur PC, faut installer le truc Microsoft Xbox sur ton PC, qui n'a plus le droit d'être inclus avec Windows depuis je sais plus quelle version, parce que antitrust, tout ça. Donc en fait, tu te fais un peu chier quand même à faire ça.
D'accord.
Donc bon.
Mais pourquoi installer un truc Xbox sur ton PC alors que tu peux juste le craquer?
Attends, on s'est déjà fait allumer aujourd'hui sur ce sujet, il va pas y revenir. Nous avons eu un Super Monkey Ball Banana Rumble.
Ah, alors c'est encore une énième compilation?
Non, c'est un nouveau Monkey Ball.
Un nouveau Monkey Ball?
On nous a promis un nouveau Monkey Ball. Alors la dernière fois qu'on nous a promis un nouveau Monkey Ball, non seulement il n'avait pas grand chose de nouveau, mais en plus c'était de la merde. Donc j'ai un petit peu peur. Mais je crois que Monkey Ball, c'est... Faut arrêter maintenant.
C'est compliqué.
C'est compliqué. T'as Monkey Ball 1 et 2 qui sont très très bons sur GameCube.
Oui, mais juste
ailleurs.
1 et 2, en fait.
Ah oui, mais pas la version PS2. Hein.
Oui, non, clairement pas.
Donc bon, bref. Au revoir, Monkey Ball. Nous avons eu... Alors, c'est là que je voudrais avoir un petit mecton.
Présent.
Shin Megami Tensei 5 Vengeance.
Oui, alors... Il est de coutume chez Atlus depuis quelques épisodes, depuis quelques RPG qui sortent, de ressortir des années après une version plus. La dernière dont on a parlé, c'était le Persona 5 Royal, donc qui était le Persona 5, mais augmenté avec des personnages en plus, qui étaient très bien intégrés dans le scénario, des nouveaux embranchements, nouvelles fins, plein d'améliorations dans tous les sens. Il y a eu une petite confusion autour de celui-là. C'est parce que sur Shin Megami Tensei 4 est sorti quelques temps après un 4 Apocalypse qui était un jeu à part. Celui-là n'est ni un jeu à part ni un DLC, c'est la version du 5 augmentée. Donc il faut repasser à la caisse pour acheter le jeu complet et c'est le 5 avec des améliorations à droite à gauche, plein de petits trucs en plus, dont un nouveau scénario. Qui, d'accord, a priori, serait accessible dès le menu de lancement.
Okay. Donc c'est une espèce de... Oui, c'est
une version
améliorée, c'est un New Game Plus du jeu, quoi.
Ouais.
C'est vraiment une version Game of the Year avec des petites différences tout le long du jeu et un scénario parallèle en plus. De ce que j'en ai lu, c'est l'histoire du jeu, mais du point de vue d'un certain personnage. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu chiant. Mais pour caricaturer, c'est comme si tu avais l'histoire du jeu du point de vue du méchant.
Alors, sinon, pro tips, si vous aimez les RPG d'Atlus, attendez à peu près 10 ans après la sortie de chaque pour avoir les versions goldées, etc. Juste comme ça.
Pro tips.
Ouais.
Voilà, c'est ce que j'ai fait sur Persona 3 et j'ai pas regretté. Hein. Vraiment, c'était très bien. Hein. Mais faut attendre que...
Je l'ai fait sur Catherine.
Oui, putain, Catherine. Moi, je me suis pas fait avoir. J'ai fini le jeu et ensuite, je l'ai acheté.
Malin. C'est prototype. Vous pouvez aussi faire ça. On a eu droit. Alors, un des jeux qui nous hype de ouf, et je pense qu'il y aura une émission dédiée quand il sortira, et c'est dans pas longtemps. Mais alors, par contre, il faudra peut-être attendre l'émission un petit peu plus longtemps parce que le jeu risque d'être très long. On a Unicorn Overlord.
Oh putain, oui.
Overlord!
Qui est donc le tactical RPG de Vanillaware qui a l'air trop cool de ouf et qui a une démo disponible. Donc en fait là c'était l'annonce de la démo. La démo dure apparemment 7 heures. Donc, le jeu final va nous mettre une race à faire 300 heures pour arriver au bout.
J'aurais une question sur les 7 heures de la démo. Est-ce qu'il y a 5 heures à faire de la cuisine de plats hyper bien dessinés?
J'espère que c'est le cas. Enfin, sinon, franchement, on a un peu tout perdu. Mais c'est, alors, on a eu quelques petits extraits justement des plats. C'est juste, enfin, ils ont un savoir-faire chez Vanillaware sur le sujet.
C'est le kiff à chaque fois.
Les mecs, j'ai peur. Vous rappelez l'émission sur Triangle Stratégie? Elle a duré 3 heures. Celle-là, ça va être la folie.
Je pense que ça va être l'enfer. Mais je le dis, dans la saison, on va forcément avoir une très longue émission, je pense, sur Unicorn Overlord, parce que le truc a l'air d'être juste foufou.
Zergil qui nous dit la démo est plus longue que certains jeux AAA.
Ben, c'est un peu vrai. À propos de jeux AAA, un qu'on n'attendait pas, qu'on a eu confirmation qu'il arrivait, et qu'on a vraiment confirmation qu'il arrive, putain, c'est quoi ce bordel? Kingdom Come Deliverance.
Alors, da fuck.
Da fuck. Je suis très curieux de le voir tourner. Parce que c'est un jeu qui faisait souffrir les PS4 à l'époque. Et le fait qu'il tourne sur Switch, alors est-ce qu'on tient de nouveau une espèce de petit miracle à la Doom Eternal ou à la Witcher 3? Peut-être.
J'ai une saloperie à sortir.
Alors sort ta saloperie.
Cloud.
Non. Ils sont en cartouche, c'est pas du cloud.
C'est du physique.
C'est du vrai. Ouais.
Alors, une petite méchanceté. Witcher 3.
Bah c'est bien Witcher 3.
Alors Witcher 3...
Non mais il est dégueulasse sur Switch. Oui, mais il est ignoble.
Ouais.
Mais, alors, tu mais vois... il tourne.
C'est ça, et pourtant il tourne. En 10 secondes, j'aime beaucoup cette version parce qu'elle montre que même en enlevant les qualités graphiques du jeu, ça reste un super jeu.
Ah oui, non mais ça, ok, mais bon, ça pique quand même. Autant tu vois à côté Doom 2016, moi j'ai pas vu de... Enfin, c'était pas choquant, le downgrade n'était pas hyper choquant.
Le downgrade sur Doom 2016, j'aimerais passer un petit mot personnel d'ailleurs à tous les gens qui jouent à Doom 2016 sur un écran 21/9 en 144Hz, vous pouvez aller vous faire enculer, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà. Parce que non, mais c'est pas gentil de narguer les petits camarades avec ça, je n'aime pas du tout ce genre d'attitude. Mais non, Doom 2016, tu vois qu'il y a un compromis, c'est à 30 images par seconde, pas tout le temps, la résolution baisse quand même beaucoup, il y a beaucoup d'effets qui sont absents, mais ça reste impressionnant parce que ça tourne. Et c'est le settings qui est lower than low, c'est-à-dire qu'en fait, tu mets le low setting sur PC et en fait, le truc est un peu plus bas. je trouve ça assez fou. The Witcher 3, je suis d'accord qu'il est un peu dégueu, mais ça reste quand même déjà jouable, c'est-à-dire qu'il est quand même à presque 30 images seconde.
Oui, pour un open world, c'est balèze.
Pour un open world, c'est balèze. La résolution est effectivement pas terrible, il y a tout un tas d'assets qui sont pas terribles, mais le fait est, le jeu tourne. Et rien que ça, je trouve ça impressionnant. C'est quand même partie des jeux. Je te rappelle que le truc tourne littéralement sur une patate. Hein. même, par rapport à la config minimum PC recommandée. Et je pense qu'on doit pouvoir descendre assez bas aussi sur PC, mais quand même, c'est un sacré exploit. Kingdom Come Deliverance, je suis vraiment très curieux de voir ce que ça donne. Il me semble que c'était du CryEngine, si je ne dis pas de bêtises.
Ok.
Et il se trouve que le CryEngine, ça... Enfin, Crysis 1, 2, 3 tourne assez bien sur Switch. Hein. Les jeux sont chiants, hein, mais ils tournent.
C'est bel et bien du CryEngine.
Voilà, donc moi j'ai un petit espoir pour que ce soit plus que correct. Hein. Il va y avoir des compromis, c'est certain. Mais voilà. Après, je sais pas si le jeu est bien, on lui dit. Voilà, je préfère.
Non, mais ça c'est secondaire.
Non. Non.
Le portage marche, c'est tout ce qui compte.
Tu vois Crysis, effectivement, alors petite promo des articles du dojo, parce que alors, on l'a pas fait en début d'émission, c'est un petit peu dommage. J'ai fait un tout petit truc sur Crysis 2 et 3. C'est pas bien comme jeu Crysis. Alors je sais que Medus ça va le faire hurler parce qu'il a kiffé le 2, mais. On se fait chier de ouf quoi. C'est emmerdant. Bref. Et on finit par Pokémon Legends ZA, qui n'était donc pas dans le Nintendo Direct Partner Showcase, mais qui était dans le Pokémon Presents.
Et comme on disait, il a cassé Internet pour des raisons drôles.
Oui, effectivement, il a accès à Internet pour des raisons relativement drôles. Donc, Pokémon Legends ZA. Déjà, le titre, il est bizarre.
Bah, moi, le A me perturbe surtout.
Mais surtout je connais que, je crois A. que c'était Z.
Ouais, le Z, XY, Z.
Oui, c'est
A,
la, la,
tour
c'est
de
la fameuse, c'est la fameuse version complémentaire qui manquait à XY. Mais pourquoi pas? Arceus était très bon, même s'il avait énormément de défauts.
Voilà, il était moche, mais c'était un
bon
jeu.
Il était moche, et même dans certaines mécaniques du jeu, était débile, juste, mais c'était, en fait, l'idée était bonne, l'exécution mauvaise. Celui-là, peut-être qu'il pourra rectifier les problèmes de Arceus. Mais pourquoi pas.
Alors, ce qu'on remarque, c'est que cette, contrairement à ce qui est dit dans le chat, là, cette version ne se passe pas en France, sinon ce serait Pokémon Legends ZAD. Je suis désolé pour... Voilà.
Non, j'approuve cette blague. Par contre, ça me fait beaucoup rire qu'ils sortent un jeu à ce moment-là, vu la situation en France, qui est quand même bon. Voilà.
Pardon, ça n'a rien à voir avec la situation en France, excusez-moi.
Mais bref. Par contre, point positif, ça ne sort pas le mois prochain. Donc,
ça sort l'année prochaine.
Voilà, donc il disait, je sais plus qui disait, ouais, ce serait bien qu'on peut-être qu'on va prendre moins de temps chez Pokémon Company. Il disait ça. Bon, au moins c'est pas un jeu lent, c'est une évolution. Un jeu par an, j'entends.
Je préfère qu'ils prennent leur temps. En l'occurrence, c'est quand même un peu plus sain de manière générale de toute façon. Bref, nous avons
Pokémon
fait
gilet jaune, mais qu'il est
Pokémon
con.
Gilet jaune, c'est un peu ça. Nous avons fait le tour, nous allons donc nous écouter un petit morceau de la bande originale de Prince of Persia, The Lost Crown, dont on parlera tout de suite après. Le morceau s'appelle Seeds of Hope. C'est composé par, où est le conducteur, Mentrix et Gareth Cocker. Ça dure 3 minutes.
Le frère de Joe?
Je ne pense pas. Et on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour. on vous aime, c'est à peu près ça. Le chat est un petit peu le bordel. C'est pas grave, c'est fait pour, c'est une bonne nouvelle.
C'est
donc,
très bien.
Prince of Persia, The Lost Crown, qui c'est que ça? Qui est le... Voilà. C'est bien quand j'écris des conducteurs, c'est vrai que c'est quand même extrêmement...
Alors, on comprend vite que nous sommes dans l'incompréhension.
C'est voilà. Ça, que se passe-t-il?
Alors c'est un mec, il habite en Perse, il est prince.
Alors non.
Il a un nom.
Et non,
c'est pas le prince.
Et t'as raison, putain, il y a un twist dès le début.
Il y a un twist dès le début, c'est pas le
prince. Il a un nom.
Non mais non, alors toujours pas. Hein.
Ça a toujours été le prince pour moi.
Alors, Prince of Persia, c'est une série qui appartient donc à Ubisoft depuis très longtemps. Alors, vous oubliez, hein, Prince of Persia, aujourd'hui, ça fait plus longtemps que ça appartient à Ubisoft que ça n'était de Jordan Mechner. Donc, on oublie Jordan Mechner. Il a plus d'influence sur Prince of Persia depuis très 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 longtemps.
Même si, je le place tout de suite, a priori, il a beaucoup apprécié cet épisode.
Ça m'étonne pas, c'est vraiment un excellent épisode, on en parlera plus tard. Donc, Prince of Persia, The Lost Crown, on y incarne Sargon. On reviendra un petit peu sur l'univers un petit peu après, mais Sargon qui n'est pas le prince de Perse, mais qui est un immortel. Alors les immortels n'étant pas des immortels, c'est les meilleurs guerriers de Perse.
C'est ça, et on les voit dans 300.
Ah, on les voit dans 300?
Oui.
T'es sérieux?
Oui, oui.
Putain, je savais pas du tout.
Donc, c'est les guerriers d'élite de l'armée perse.
Voilà, donc c'est les guerriers d'élite de l'armée perse qui se battent contre un mal bizarre, il se passe des trucs bizarres et tout ça, et en fait il faut qu'on aille sauver le prince de Perse. D'où le titre. The Lost Crown, eh oui, la couronne perdue.
Je note,
la couronne,
quand même,
c'est un prince.
Je note quand même que, comme à chaque fois avec Ubisoft, ça commence par un mensonge.
tu veux dire dès le marketing?
Oh, exactement.
C'est un peu bâtard. Bref, donc c'est un Metroid-like. Alors, je dirais pas un Metroidvania, parce que finalement ton personnage évolue relativement peu. Vous me corrigez si je me trompe, mais enfin non, d'ailleurs vous me corrigez pas, je me trompe pas. C'est un, comment dire, on n'a pas véritablement de progression du personnage, puisqu'on a juste deux slots pour deux pouvoirs qu'on peut changer si on arrive à les gagner.
Oui, c'est les histoires des amulettes, c'est ça?
Alors c'est pas les amulettes, ça c'est un autre truc encore, mais on expliquera ça juste après. Donc c'est un Metroid-like, ça veut dire qu'on a une carte gigantesque, mais genre, enfin les. Je sais que Mecton, ça t'a collé des vertiges en mode ah.
Oui. Ce que je disais, il y a un moment, je pensais arriver à avoir fait le tour de la carte et j'ai ouvert le menu de carte et je me suis dit, nom de Dieu, bon, je fais une pause. C'est grand, c'est très grand.
J'ai eu le même truc et le pire, je suis arrivé après le passage où toi tu es. Donc j'ai ouvert trois sauts qui permettent d'aller dans un truc, une arène de sable qui est déjà très en dessous de la carte où on t'avait déjà dit que c'était le fond et en fait non, t'as encore un fond ailleurs. Et du coup tu vas très très à droite de la carte et tu te dis c'est quand même, putain c'est loin. Et tu te dis mais en hauteur il n'y a plus rien là. Et en fait si en hauteur il y a encore un truc par-dessus le truc où t'étais. Enfin, la carte est immense.
Ouais, il y a du contenu, oui.
Je pense, enfin, je sais pas si elle est plus grande ou plus petite qu'un Metroid Dread, mais elle est juste flippante au départ parce que effectivement, elle s'ouvre très progressivement. Mais putain, la vache, ça donne le vertige. T'es vraiment dans un truc assez énorme. Voilà, on a du combat au corps à corps. Donc on a deux épées. Donc on a le petit Troid combo qui fait plaisir. Hein.
Classique.
Classique.
Pour
on
commencer,
a une
oui.
Petite glissade.
Oui.
On récupère très très vite un arc, c'est pas du gros spoil, hein, c'est vraiment un des premiers objets qu'on récupère. Qui permet
Ça doit être dans les bandes annonces.
En plus, oui, je pense. Qui permet d'aller tirer au départ juste 10 flèches. Donc ça fait pas beaucoup, qu'on peut recharger évidemment en allant récupérer des flèches dans des cars, quoi. Bref, voilà. On se balade donc dans une carte gigantesque, et ben évidemment, comme c'est un Metroid-like, on y retrouve tous les poncifs du genre. Il y a des ascenseurs. Alors c'est.
Oui.
Ça se passe en Perse, c'est un peu bizarre, mais il y a des ascenseurs.
Non, ça veut dire que c'est l'ancêtre, c'est un sans-efforceur.
Pardon. c'est trop dur ce soir. Alors, il faut savoir, il y a un des documents que tu trouves dans le jeu qui dit non, mais en Perse, il y avait vraiment des ascenseurs qui fonctionnaient avec du poids. Donc les mecs ont fait la recherche pour vérifier qu'ils pouvaient mettre des ascenseurs.
D'où les pyramides. Ouais, okay.
D'où les pyramides. Non, mais voilà, c'est, tout est logique. Il y a des points de sauvegarde réguliers. Il y a des ennemis rotors, évidemment, il y a des allers-retours, il y a de la mémorisation dans l'espace, parce que c'est tout l'intérêt d'un Metroid-like, c'est que vous arrivez à un endroit, il y a une porte qui vous bloque parce que vous pouvez pas y aller, faut sauter plus haut, machin, ça marche pas. Vous allez faire tout un détour pour récupérer ça, et quand vous revenez, miracle, vous pouvez sauter beaucoup plus haut parce que vous avez récupéré le pouvoir qui vous permet d'avoir le double saut, la grimpette, le grappin, tout ce que vous voulez, et hop, vous pouvez passer cet obstacle, et tout d'un coup, ça ouvre un petit peu plus la carte. Donc ça, on a l'habitude, très inspiré de Metroid là-dessus.
Oui, ouais. Ça, c'est le classique Metroid, vos power-up sont des clés.
C'est ça.
C'est ça.
Les power-up sont des clés.
Je le place maintenant, je ne sais pas si tu avais prévu. Accessibilité, dès le début du le jeu, va vous demander si vous voulez jouer à la Metroid, à la Super Metroid ou à la Metroid Fusion. Donc au niveau de la carte, soit c'était tu explores, tu te démerdes, tu te perds et tu finis par trouver ton chemin, ou marqueur d'objectif sur la carte.
Sachant qu'il y a quand même une petite astuce, c'est que alors t'as pas vraiment de camp de base, mais il y a quand même un endroit où on revient assez souvent qui s'appelle le refuge, c'est bien trouvé, dans lequel en fait tu as le forgeron qui améliore tes armes, tu as
le tuto, t'as
marchands.
Le tuto.
T'as le tuto de combat qui est quelque part par là aussi.
Ouais, ouais.
Voilà, et tu as une petite fille que tu vas retrouver beaucoup de fois sur la carte, on en reparlera, qui peut te donner un indice. Alors c'est pas un indice au sens, elle te dit pas sur la carte où aller, mais elle te dit « Oh, il faut que tu cherches un grand désert, a priori, il serait quand même plutôt dans ce coin-là. » Donc elle te donne pas explicitement l'endroit, mais elle te décrit l'endroit suffisamment bien pour que tu puisses arriver à le trouver. Donc voilà. Donc, même si tu n'es pas guidé, tu peux aller... Alors par contre, il faut l'acheter l'indice, alors, il coûte pas très cher.
Il coûte 4 mobs. en argent à peu près. Quoi.
C'est, ouais, c'est ça. C'est 30 cristaux, je crois, un truc comme ça.
Ah, donc les mobs, ils te lâchent des trucs.
Alors, les mobs te lâchent des trucs. Alors, on va avoir... On va peut-être éliminer tout de suite ça. Donc, on a fait un petit article sur le dojo collaboratif avec les inspirations de ce Prince of Persia, parce qu'en fait, on a vu plein de trucs qu'on a vus ailleurs, déjà.
Oui, alors je te remercie pour le collaboratif, parce que j'ai dû ajouter une phrase, moi.
Oui, mais c'est bien, déjà. Non, mais, pas que toi, il y a d'autres gens. Il y a Antix aussi qui avait dit « Ah, mais ça me rappelle Hollow Knight, machin. » Et effectivement, j'avais regardé, c'était ça. Donc, il prend plein d'inspirations d'autres Metroid-like. On pense à Ori.
Oui, pour les petits indices visuels dans le décor qui te guident vers le prochain point de sauvegarde.
Voilà, parce que alors, les points de sauvegarde sont des arbres, les arbres wak-wak. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. C'est une espèce d'arbre que tu réveilles. Et en fait, t'as une espèce de traînée dorée avec des petites feuilles.
Des pétales, ouais.
Des pétales, des machins qui te guident vers l'arbre wak-wak. Donc tu sais où est le prochain arbre wak-wak. Quand tu vois la piste, le machin qui scintille, là tu sais que la salle suivante, ou juste au-dessus, ou juste en dessous, tu as un arbre wak-wak. Donc c'est cool, tu sais où est ton prochain point de sauvegarde. Y a Metroid Dread pour tout ce qui est combat.
Oui.
Alors le jeu ne se focalise pas beaucoup sur le combat. T'en as pas mal, mais c'est pas non plus le cœur du jeu. Mais par contre, les combats sont hyper dynamiques. C'est-à-dire que les mecs ont compris que on pouvait faire des combats difficiles, on pouvait faire des boss difficiles, on peut vraiment faire des ennemis retors et avoir un système de combat intéressant, notamment avec les systèmes de contre qu'on avait dans Metroid Dread. Je sais pas si tu te rappelles, quand un ennemi flash en orange, il te fonce dessus, tu donnes un coup de canon et ensuite ouais. Tu le fumes. Ouais. Bah là, c'est un peu le même principe. T'as une esquive, enfin, t'as un bouton d'esquive et en fait, quand il y a une attaque jaune qui arrive, donc quand l'œil de l'ennemi, en gros, flash en jaune, tu peux faire une parade spéciale et t'as une petite cinématique pour dire tu fais très très mal au monsieur. Et quand c'est rouge, bah, faut esquiver, faut surtout pas essayer de parer.
C'est imparable. Même chose, je place accessibilité à la Ubisoft, la fenêtre de tolérance pour le contre, elle est paramétrable. Et ça, c'est cool.
Ah, ça c'est
cool.
Très chouette, effectivement.
Alors, si t'as du mal avec question, le timing, tu peux y aller.
Petite question, est-ce que c'est comme dans Samus Returns, du coup, et Dread, où c'est un petit peu trop envahissant dans le gameplay?
Alors non, c'est pas envahissant, parce qu'il se trouve que le système est quand même assez bien foutu, dans le sens où t'es pas du tout obligé de l'utiliser. Ça, c'est quand même le premier point... Qui fait plaisir. Tu peux très bien juste bourrer les ennemis si tu veux. C'est pas le plus intéressant, mais voilà. Et y a une espèce de progressivité. Alors, non pas dans ton personnage, mais les différentes amulettes que tu vas ramasser, on parlera des amulettes un tout petit peu après, mais te permettent en fait d'avoir... T'en as une notamment qui te permet d'avoir... Au départ, t'as le 3 hit combo de base, il y en a une qui te permet d'avoir le 4 hit combo, puis le 5 hit combo, puis le 6 hit combo. Et en fait, une fois que t'as commencé à enchaîner un ennemi, il peut plus vraiment réagir.
C'est ça. Même pour te compléter, quand tu fais les petits tutos du personnage qui t'apprend à te battre, tu te rends compte que même avec le 3 hit combo, tu as des possibilités de juggle.
D'accord.
Voilà. Donc tu peux... effectivement, tu as les possibilités de juggle, parce que si tu glisses d'une certaine manière, tu fais une... T'as ton esquive, en fait, est une espèce de glissade. Tu peux glisser, donner un coup d'épée pour monter un mec, puis ensuite commencer à le juggle, et donc là, il peut plus réagir. Donc t'es pas du tout obligé d'utiliser le système de parade esquive, c'est juste contre les boss, c'est recommandé, parce que quand t'arrives à parer les boss, tu leur fais quand même de très gros dégâts.
D'accord, mais ça, c'est intéressant, parce qu'effectivement le défaut de Metroid Dread et tout ça, c'est que finalement le combat était limité, et le seul gimmick du combat, c'était ce truc de contre, qui était du coup un peu envahissant, quoi. T'avais plus intérêt à laisser l'ennemi attaquer et contrer que attaquer toi-même. Et là, du coup, tu me rassures, c'est pas du tout le cas.
Non, c'est pas du tout le cas. Alors, t'as en fait, c'est pas du tout le cas. C'est un peu particulier. Ça se voit plus sur la fin de jeu, donc Mecton, peut-être que tu l'as pas bien vu. Mais quand tu reviens aux zones de départ, où tu sais, t'as les ennemis, t'as les PNJ, t'as les mobs niveau 1 un peu merdiques, en fait, comme t'as suffisamment upgradé tes épées au forgeron, et que tu as le fameux 3 hit combo qui s'est transformé en 4, 5, 6 hit combo, en fait, ces ennemis-là, t'as plus besoin de les esquiver. Parce que tu leur fumes la gueule en 10 secondes.
Ok.
Mais quand t'es dans les dernières zones du jeu, en fait, les ennemis sont quand même bien costauds, et là, à ce moment-là, t'as intérêt à le faire. Donc l'équilibrage est fait quand même de manière assez intelligente, dans le sens où, au tout début, quand t'arrives dans une zone et que les mobs sont vachement plus forts que toi, en fait, la parade, t'as vachement intérêt à l'utiliser, parce qu'elle elle t'évite tout un tas de mauvaises surprises.
Mais même si, alors...
Quand tu reviens sur les premières zones du jeu, bah, t'es pas vraiment plus obligé de l'utiliser.
Ouais, j'ai un doute sur Metroid Dread, si tu ratais une si tu ratais un contre, c'était punitif ou pas?
Oui, pas me tant. Semble.
Pas tant. Parce que là le risque récompense, il est assez poussé quand même dans celui-là.
D'accord.
Si tu foires une parade, ça fait bobo quoi.
Ah, tu t'en prends plein la gueule. Ça c'est vrai. Alors, autre chose qui vient de Metroid Dread à mon sens, c'est les boss qui sont très difficiles, très longs, plein de phases, gigantesques. Ça aussi c'est un truc qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Alors dans les Prince of Persia, les gros boss, bon, ça existe quasiment pas, mais c'est vrai que dans les Metroidvania, de manière générale, t'as pas forcément des boss très très gros. Je me rappelle Hollow Knight, généralement c'est des boss qui sont difficiles en plusieurs phases, mais pas forcément des boss très impressionnants. Alors que là, les mecs ils se sont un peu lâchés quoi, t'as vraiment des boss qui font des tailles complètement hallucinantes.
Oui, mais dès le départ en plus t'as des mecs qui font de 2-3 fois la taille de Sargon, t'es là, c'est quoi ce bordel?
C'est ça, et t'as vraiment des boss très difficiles, alors no spoil, enfin...
La forêt?
Ouais, la forêt, t'as un boss qui est un loup, alors je vous expliquerai pas les tenants et aboutissants du loup, mais en gros t'as un boss qui est un loup, et il est vraiment mastoc, mais genre, t'as pas envie de l'affronter, le combat est en trois phases avec des espèces de phases intermédiaires où il se passe un autre truc, enfin c'est juste...
Ok, c'est celui que j'ai en tête. J'y ai passé trois quarts d'heure, mais je l'ai pas trouvé pénible, tu vois. Enfin,
non, c'est ça. C'est comme Metroid Dread en fait, quand tu perds,
exactement,
t'as juste envie de recommencer, parce
exactement,
que bah, c'est cool en fait, le boss il marche,
exactement,
et donc tu recommences.
D'ailleurs, les checkpoints, si tu te foires sur un boss, tu recommences le boss direct. Ça, c'est oui, très très cool. Il y a pas tout un chemin à se retaper. Voilà.
Ou tu as le choix d'aller au dernier arbre Wakwak pour changer ton équipement si par hasard t'as un peu chier dans la colle. Pareil de Hollow Knight, tu as la carte. Ça, c'est un petit détail rigolo, et les amulettes. Donc le système de cartes, en fait, tu explores la carte, tu les dessines au fur et à mesure. Donc ça, c'est le truc où, hop, tu fais ça tranquillement. Mais tu peux trouver la petite fille, je sais plus comment elle s'appelle, qui est à différents endroits de la carte que tu vas croiser, qui va en fait te filer la carte de l'endroit où t'es. Donc t'as intérêt à la rechercher, ça coûte pas très cher en plus. Contrairement à Hollow Knight où ça coûtait une couille. Là, ça coûte vraiment pas cher, donc il faut le faire. Et pareil de Hollow Knight, donc t'as un système d'amulettes. Alors Sargon a un collier, en fait, sur lequel tu peux accrocher différentes amulettes. Et ces amulettes vont prendre plusieurs emplacements sur le collier. Donc tu commences, t'as 5 emplacements, je crois. Et quand t'as récupéré toutes les upgrades, t'en as 15. Et tu as des amulettes qui, en fonction de leur pouvoir, vont prendre 1, 2 ou 3 emplacements. Évidemment, les amulettes les plus puissantes prennent 3 emplacements, les amulettes simples prennent 1 emplacement. Et alors, je crois que la première qu'on te file, c'est le truc qui te donne une jauge de vie supplémentaire, mais que tu ne peux pas soigner.
C'est ça.
Voilà. Et puis après, t'en as plein d'autres. Donc t'en as une qui permet d'augmenter, par exemple, tes attaques aériennes. Voilà, tes attaques aériennes font plus mal. T'en as une qui te permet d'augmenter ton combo, celle dont on parlait tout à l'heure. Donc ton 3 hit combo se transforme en 4 hit combo. Et le truc, c'est que le forgeron peut aussi améliorer les amulettes. Donc tu peux aller voir le forgeron, et celle qui te donnait une jauge de vie non rechargeable t'en donnera 2, puis 3. Puis après, je crois qu'elle est au max. Je crois que c'est 3 niveaux par amulette. Donc ça rappelle beaucoup, beaucoup Hollow Knight, dans lequel tu avais l'amulette pour te repérer, l'amulette pour être plus discret, l'amulette pour aller plus vite, l'amulette pour taper plus fort. Voilà, et t'as même des amulettes un peu trolls que tu peux acheter chez un marchand un petit peu particulier. T'as genre une amulette qui augmente ta puissance, mais alors tu tapes, sans déconner, au moins 10 fois plus fort, mais ça divise ta vie par 8.
C'est ça, j'appelle ça les all-in, tu vois.
Ouais, c'est ça. C'est canon de verre.
Donc tu peux y aller, hein, tu peux tenter, mais tu risques d'en chier. Voilà, donc de Hollow Knight, ça a emprunté ça, et le dernier truc, c'était Dark Souls, puisque tu as en fait, tu as de l'estuce, finalement, c'est-à-dire tu as une...
Exactement,
Tu as la bouteille de potion,
c'est ça, qui se recharge à chaque arbre wak-wak, et donc, pareil, tu peux augmenter son efficacité, et tu peux surtout augmenter le nombre de bouteilles que tu as, mais elle ne se recharge qu'aux arbres wak-wak. Donc en gros, quand tu vas explorer, t'as ta barre de vie, t'as de quoi la recharger 1, 2, 3 fois, puis après c'est tout. Donc faut pas trop se louper non plus. Voilà, donc ça vous donne un peu une idée de toutes les mécaniques qui ont été empruntées.
Je reviens 30 secondes sur la carte, il y a une petite feature, toujours accessibilité, enfin je classe ça là-dedans, qui est hyper cool. Oui. On peut régulièrement en fait prendre des screenshots, et ces screenshots sont punaisés sur la carte.
C'est ça. Donc au lieu d'être obligé de te rappeler d'un truc ou de mettre une icône qui n'est pas toujours très claire, ça au bout de 15 heures de jeu, l'icône... Pourquoi t'avais mis un, comment dire, un squelette à cet endroit-là? Bah, c'est
pas pourquoi t'as mis un squelette avec marqué « Nick » Je comprends pas.
Mais là, c'est plutôt malin, effectivement. C'est-à-dire que tu peux t'arrêter, juste prendre un screenshot, tac, et ça te met un petit œil sur la carte. Et en fait, quand tu te mets sur l'œil sur la carte, ça t'affiche le screenshot. Donc tu sais exactement pourquoi t'as pris screenshot.
Et de mémoire, il me semble qu'aucun jeu ne fait ça.
Alors, on n'a pas trouvé, mais du coup, si c'est le cas, c'est une putain d'idée de génie, parce qu'effectivement, dans un Metroidvania...
Ah, c'est super.
Le côté mémorisation de l'espace, c'est-à-dire tu dois te rappeler de là où il faut aller pour aller faire le truc X ou Y, je suis d'accord, ça fait 100% partie du truc. Ça fait partie du trip. Mais, là, t'as vraiment un truc hyper pratique où t'as pas besoin de te rappeler d'un truc que t'as vu il y a longtemps, et la carte est très grande, donc effectivement, ça aide.
Non, c'est super. Puis toi, en tant que joueur avec de la bouteille, quand tu découvres ce truc, tu te dis, ok, c'est génial. J'arrive ici, objectivement, il me manque tel pouvoir pour passer, bon, bah, le petit screen, et puis je verrai plus tard, quoi. C'est génial.
C'est génial, et c'est surtout dans un Metroid, entre guillemets, ça se justifie pas trop parce que l'espace de jeu est pas si grand que ça. Là, de ce que tu me racontes, c'est immense, donc c'est peut-être pas plus mal que ça existe.
C'est absolument immense. Le truc est impressionnant. En deuxième partie, j'évoquerai peut-être un des niveaux où moi j'étais là, genre, waouh, ok. Donc les mecs, ils ont été loin, loin, loin. Vraiment très loin. Et c'est cool, hein, vraiment, il n'y a pas de souci.
Les mecs, d'ailleurs, c'est Ubi Montpellier, on est d'accord?
Oui. Alors avec de l'aide des copains, il y a...
Oui, oui, oui.
Comme d'habitude, oui, le générique Ubisoft, il dure. Hein.
Comment il est long.
Ah bah, c'est très impressionnant, mais après je pense qu'il y a beaucoup de features qui ont été développées par les uns les autres. Enfin tu sais, c'est comme d'habitude chez Ubisoft, c'est un gros groupe avec pas mal de studios, donc il y en a qui a fait un bout d'IA, il y en a un qui a fait un bout de ci, un bout de mi. Enfin voilà. Que dire d'autre sur la partie mécanique? Je crois qu'on a à peu près fait le tour... On est pas mal, on a pas mal de pouvoirs. Alors, les pouvoirs, donc, on peut upgrader son arc, son épée, classique. On a deux pouvoirs qui peuvent s'activer avec une jauge qui se remplit, c'est l'Atra, qui est en fait une espèce de jauge d'énervement.
C'est ça, alors qui se remplit de base quand on donne des coups, qui se décharge quand on prend des coups dans la gueule, que risque-récompense, encore une fois, et il y a des amulettes pour corriger tout ça, si on a envie.
Et alors pareil, risque-récompense, quand tu fais une parade, tu remplis ta jauge d'Atra à mort. Quand tu rates une parade, elle se vide de ouf.
Donc pareil, j'ai pas fait gaffe à ça.
Bah, faut pas se louper. Hein. Donc voilà, et la jauge d'Atra sert à déclencher. Donc t'as un niveau 1, niveau 2, niveau 3. Alors je crois que le niveau 1 ne fait pas grand-chose de mémoire.
Bah, il te donne accès au pouvoir de niveau 1.
Oui, c'est ça.
Après, t'as certains pouvoirs spéciaux qui vont te demander 2 barres. Voilà.
Et puis t'en as qui vont te demander 3 barres. Tu sais ça peut-être pas encore.
Oh.
Barre. Et donc, alors c'est des pouvoirs un peu... T'en as un qui fait une zone de soins, c'est un des premiers trucs que tu récupères.
Je l'utilise souvent.
Oui, ça m'étonne pas. T'en as un où tu vas faire une attaque verticale très puissante, t'en as un où tu vas faire une attaque horizontale qui prend quasiment tout l'écran. Enfin voilà, c'est des trucs comme ça, c'est des espèces de pouvoirs spéciaux. Ça sert contre les boss, ça sert de temps en temps dans l'exploration normale, mais assez rarement. Bon, ça fonctionne. Et surtout, un truc très important, donc la carte est très très grande, mais le prince se déplace très très vite, et je trouve que le jeu s'axe beaucoup sur les déplacements. La plupart des pouvoirs que tu récupères, donc un des premiers pouvoirs que tu récupères, c'est le fait de pouvoir, alors je sais pas comment, c'est courir
dash.
En l'air, le dash, voilà,
ouais.
Et qui est un dash au sol ou en l'air. Et en fait, t'as beaucoup de pouvoirs qui te permettent de te déplacer plus vite.
Oui.
Ou plus efficacement. C'est assez impressionnant là-dessus.
Et je le place maintenant. Putain, mais j'ai l'impression d'être l'émissaire accessibilité à la Ubisoft.
Oui.
Il y a une petite option qui est là pour skipper les passages de plateforme sur lesquels on pourrait buter.
T'es sérieux,
pareil, c'est hyper cool. Ouais, ouais. En fait, c'est le super guide à la Mario, quoi. Si cette option est activée, tu foires 2-3 fois un passage de plateforme, le jeu va te proposer de te téléporter à la fin du passage de plateforme.
Parce que c'est vrai que des passages de plateforme un peu ardus, il y en a.
Alors, ils sont... Il y a moyen de les avoir dans les pattes en se foirant régulièrement. C'est pas non plus du die and retry. Hein. C'est,
non, donc là.
C'est, voilà, ça se fait bien. Mais je me dis, ouais, pour quelqu'un qui serait intéressé juste pour voir ce qu'il y a, tu vois, ce qu'il y a derrière la montagne, voir ce qu'il y a après, et puis qui, je sais pas pourquoi, aurait une galère sur un passage, je trouve ça vraiment sympa de proposer ce genre de choses. Quoi. Sachant que toutes ces options d'accessibilité dont je vous tanne depuis tout à l'heure sont activables, désactivables à la volée. Hein. C'est pas quelque chose qu'on choisit au début de la partie et qui est figé. Quoi.
Et ça, c'est une excellente idée pour le coup.
Ah, c'est une très bonne idée, mais vraiment, enfin, en termes d'accessibilité, ils sont pas mal parce que c'est pareil pour les combats. Tu peux décider de la difficulté des combats, tu peux décider de la, effectivement, des fenêtres. Tu veux des fenêtres très larges pour les parades, les esquives parce que t'as un peu du mal. Enfin, moi, je trouve ça très cool. C'est vraiment un jeu très accessible. Je sais pas pour les plateformes.
Même le truc de la carte, est-ce que tu veux le marqueur d'objectif sur la carte ou pas, c'est activable, désactivable à la volée.
Donc, tu galères sur un point précis, tu peux l'activer juste pour dire ah, ok, c'est là qu'il faut aller. Puis ensuite, tu peux le désactiver et faire ta vie, quoi. Et ça, c'est cool. Parce que c'est vrai que les passages plateforme, je pense que t'es pas encore arrivé sur ceux qui sont vraiment très durs. Parce que, alors, il y a pas mal de... Le prince a pas mal de capacités, en fait. Tu récupères ce qu'on appelle des plumes du Simorgue, qui sont, en fait, grosso modo, les pouvoirs classiques d'un Metroid. Hein. Sauf que là, c'est quasiment que des trucs de déplacement. Donc tu vas avoir le dash, t'as un double saut qui arrive très très tard, d'ailleurs, dans le jeu. Donc vous inquiétez pas, hein, ceux qui avaient pas trouvé le double saut, il arrive, mais très très tard.
Je l'ai pas encore, mais
tu l'as pas encore, mais il arrive quasiment à la fin, quoi, c'est un truc de fou. Le double saut qui arrive à la fin dans un Metroid, j'avais jamais vu ça, moi, perso. Hein, c'est...
Ouais,
c'est
spécial, effectivement.
C'est un peu spécial, mais parce que le dash fait vraiment le café. Enfin, fait en tout cas pas mal le café. Tu as le alors, ce que j'appelle le clone glacé.
Oui, moi j'appelle ça le puzzle mental. Mais...
c'est pas mal. Alors, j'explique pour Jean, pour vous tous qui n'avaient pas forcément joué au jeu. Tu peux, en fait, t'as une touche qui te permet de laisser une ombre, un fantôme, à un endroit, et quand tu rappuies sur la touche, tu reviens instantanément sur cette ombre.
Tu te rembobines toi-même, mais pas le reste du monde.
Et pas le reste du monde. Donc tu vas avoir des énigmes de type, par exemple, je fais un saut, un dash, je suis coincé, je ne peux plus faire ni de saut ni de dash, donc je laisse un fantôme, je reviens au début du parcours, et puis je réactive le fantôme pour revenir à cet endroit, puis je refais un saut, un dash. Et quand tu commences à combiner ça avec ah oui, tu n'as pas non plus le changement de dimension.
Si, je l'ai, celui-là. Oui. Pareil, il est très drôle aussi, celui-là.
Et puis là, tu sais, pareil, t'as des énigmes bien retorses avec, hein.
Il y a un moment, je me suis demandé si une troisième main m'aiderait pas, d'ailleurs.
Alors... T'as des passages de plateforme sur la fin du jeu pour récupérer les derniers bonus. Donc t'as plein de collectibles répartis un peu partout dans le monde qui sont... Pareil, c'est assez fou la quantité qu'il y a. Tous les passages où tu te dis, tiens, il y a un truc rigolo, là, il y a un petit bout de plateforme, ça n'a pas l'air facile, il y a toujours une récompense derrière. Toujours.
Oui, toujours. Et encore une fois, si tu te dis, j'y arrive pas, il doit me manquer un truc, screenshot, et puis tu reviens plus tard.
C'est ça. Et j'ai augmenté mon épée au maximum, et je crois que j'ai augmenté l'arc au niveau 2, et je me suis rendu compte que pour avoir l'arc au maximum et l'épée au maximum, il me manquait, genre, t'as des lingots.
Des trucs pour le forgeron. Voilà. Là, ouais.
Les trucs pour le forgeron, c'est un lingot de Damas, en fait, donc c'est un objet collectif du jeu, et en fait, pour faire ta première grade d'épée, il te faut un lingot, la deuxième grade, il faut deux lingots, et ainsi de suite. Et donc, j'ai ramassé genre 15 lingots dans tout le jeu. Et je me suis rendu compte qu'il m'en manquait au moins 10 de plus. Je vois pas où ils sont. J'ai fait 70% de la carte, donc ça doit être dans le reste, mais... Enfin voilà, c'est... Il y a quand même énormément à explorer. Mais voilà, t'as beaucoup de trucs à base de déplacement, Alors, le tout dernier pouvoir, je vais peut-être pas te le dire, je vais peut-être pas vous spoiler, parce que celui-là, il est vraiment très rigolo.
C'est un triple saut.
Non, c'est pas un triple saut. Bon, allez, je le dis, c'est pas grave. Tu récupères assez rapidement l'arc, et en fait, l'arc vient avec un machin rond que tu peux lancer, je sais plus comment ça s'appelle.
Oui, c'est un merdier rond avec des pics tout autour.
C'est ça. C'est le truc de Turok 2, là, tu sais, où tu peux balancer, ça fait ça. C'est exactement
un
ça.
Un frisbee qui pique.
Un frisbee qui pique. Et ben, en fait, tu peux te téléporter à l'endroit où est le frisbee qui pique.
Oh, excellent!
Donc là, tu peux commencer à faire. J'envoie le frisbee qui pique, qui rebondit contre les murs, je rappelle. Donc, t'envoies le frisbee qui pique, qui rebondit contre un mur, tu te téléportes à cet endroit-là, tu te re-téléportes en bas parce que t'as laissé ton clone glacé, puis tu fais un saut, puis tu fais un saut, puis tu fais un dash. Enfin,
C'est génial.
Il y en a quelques-unes de phases de plateforme où c'est presque du. Alors, t'as de la rythmique, mais c'est presque.
C'est du puzzle.
C'est du puzzle, hein. C'est de dire, ok, faut que je fasse un dash, puis un saut, puis un double saut, puis un clone glacé, puis je reviens là, puis j'envoie le truc, puis je fais. Ça devient vraiment le bordel. Mais du coup, c'est très 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 chouette, c'est extrêmement fluide et c'est très agréable comme phase de plateforme.
Et c'est progressif, c'est ça qui est cool.
Très progressif.
Il y a JBC qui nous demande s'il y a toujours des sables du temps. Ça fait une transition pas trop mal.
Voilà, ouais. Bah justement, on va en parler juste après. Donc on va se faire une petite pause musicale. Écoutez un deuxième petit morceau de la bande originale de ce Prince of Persia, The Lost Crown. Il s'agit donc du morceau qui s'appelle Uncover the Truth. C'est toujours composé par Mentrix et Gareth Cocker, et ça dure un tout petit peu moins de 3 minutes, et on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour. Et bah, on va fermer cette histoire de Prince of Persia avec ce qui nous reste, en fait. Donc on vous a dit, on incarne Sargon.
Du sable.
Alors, on nous a posé la question, y a-t-il des sables du temple ? Oui, mais pas sous la forme que vous imaginez. De ce point de vue-là, le jeu est assez malin, il vous retourne un petit peu sur la tête, là, mais voilà, y a deux, trois trucs comme ça. Donc, vous n'êtes pas le prince de Perse. Et là, vous dites, ouh, bouh, mensonge, Ubisoft.
Et non, c'est un PNJ à la con.
C'est un PNJ à la con. C'est vraiment un PNJ à la con, en l'occurrence. Et quand tu vois la fin du jeu, je ne vais pas spoiler là, même si, bon, c'est pas vraiment l'histoire de.
Oui, ce qu'on disait, voilà, c'est pas un jeu qui est guidé par son scénario, donc oui. C'est pas la mort.
Le scénario est sympathique, ça fait plaisir, les persos sont très sympas. Ils ont tous une petite personnalité, les 5 immortels, ouais. Ils ont tous un look, en plus, assez fou, je trouve. Il y a vraiment des trucs très, très, très bien. Voilà, donc vous êtes
Le prince de Lue, il est con. Le
prince de Lue, c'est ça. Bref, vous êtes Sargon, un des immortels, le plus jeune. Donc les immortels, je le rappelle, ce sont les meilleurs guerriers de Perse. Et au début, vous combattez l'invasion de je sais plus quel peuple à la con, mais ça va très vite ne plus avoir beaucoup d'importance, puisque un des immortels a apparemment trahi et a enlevé le prince de Perse et l'a emmené sur le mont Kaf.
Oui, le mont caisse d'allocation familiale, voilà.
Non, pas...
Attends, c'est un prince et il abuse des aides sociales, c'est ça ?
Voilà, on en est là. Ouais, faut le dénoncer. Donc un des immortels a apparemment trahi, et visiblement, les 4 autres sont partis sur le mont Kaf, sauf que le mont Kaf, il s'y passe des choses assez bizarres. D'abord, le temps ne semble pas vraiment avoir de sens.
Oui, mais ça, c'est des très longues files d'attente qui donnent cet effet.
C'est exactement comme à la préfecture de Nanterre. Voilà. Non, mais en fait, en gros, à la CAF, donc. On va pas y arriver, putain. Donc, le temps ne semble pas vraiment avoir de sens. D'ailleurs, vous croisez, ce n'est pas un gros spoil, je crois que c'était dans un des trailers, vous croisez plusieurs versions de vous-même. Wink, wink.
Eh oui.
Et oui, comme dans un certain Prince of Persia
3.
The Two Thrones, comme dans Timesplitters 3 aussi, oui, bon d'accord. Oui, dans Timesplitters, genre, c'est bien.
Oui.
Timesplitters. Voilà, donc vous croisez plusieurs versions de vous-même qui apparemment ont suivi des chemins potentiellement un petit peu différents du vôtre. Donc c'est intéressant, vous croisez des personnages dont vous auriez juré que c'était des adultes, et puis finalement c'est des enfants. Vous allez croiser des vieux, vous savez pas, voilà, l'inverse, vous allez croiser des gens, vous savez pas si c'est un vieux, un jeune, si vous l'avez déjà croisé avant, comment il sait ça, comment il sait ci. Il se passe des trucs très 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 bizarres. Et donc ce mont Kaf, il est très 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 grand. Donc vous commencez dans une espèce de palais, et en fait il y a un second palais, il y a des égouts, il y a un désert, il y a une mer déchaînée, dont je parlerai peut-être un tout petit peu après.
Une forêt de sa mère.
Et qui est une forêt de ouf. Donc ça ressemble vraiment effectivement à la préfecture de Nanterre. C'est important. Alors, pour les gens qui ne sont jamais allés à la préfecture de Nanterre, je vous assure que c'est une aventure. Hein. C'est
oui.
Voilà. Il faut aller au 5e étage, 4e bureau, 3e cohorte pour récupérer le formulaire A38. Je vous garantis
la
que vous êtes bien.
La dark-soulisation de l'administration française.
En plus, c'est gigantesque la préfecture de Nanterre, je crois que tu t'en rends pas compte, le truc est fou.
Ouais. Eh, tu déconnes, mais avec ce que j'ai vécu récemment, la maison qui rend fou dans les 12 travaux, c'est pas une parodie, hein. C'est un documentaire.
C'est une assurance, monsieur.
C'est un documentaire.
Une assurance parfaitement privée, je tiens à préciser. Ce n'était pas l'administration française. Bref, donc, l'ADA est vraiment cool. Je précise, c'est-à-dire que chaque immortel a un peu son style. Tous les personnages, tous les PNJ, on croise beaucoup de PNJ sur la carte, qui vous filent différentes missions, qui vous donnent différents collectifs, qui vous donnent des objectifs secondaires. C'est assez rigolo.
Oui, quête annexe, oui.
Pas mal de quêtes annexes. Alors ça ressemble beaucoup, encore une fois, à Hollow Knight, finalement. Et ils ont tous un style un peu différent, ils ont tous une voix différente, ils ont tous... voilà, c'est vraiment, il y a tout un tas de trucs très originaux, sur la carte. Moi, je sais pas ce que t'en as pensé, moi je la trouve super réussie, cette DA.
Ouais.
C'est beau.
C'est cohérent, c'est varié, enfin, ce qu'on disait en off, on répète depuis tout à l'heure, le jeu est grand, mais je me suis pas senti perdu, quoi.
Oui, les différentes zones sont suffisamment visuellement
hyper marquées. Hein.
Ouais, hyper marquées. Parce que moi, je n'ai vu que le début, et du coup, ça faisait Prince of Persia, quoi. C'est-à-dire les sables, les teints ocre, etc.
C'est ça. Mais c'est là où le jeu est assez balèze, c'est que il commence par te. C'est un peu ce qu'on appelle la technique de la carotte. C'est-à-dire que il te tend une petite carotte et t'as vu, c'est Prince of Persia, t'as vu, c'est cool, t'aimes bien Prince of Persia, les sables du temps, le temps c'est mystérieux, et en fait c'est pas du tout ça le jeu.
Tiens les catacombes.
Voilà, tiens les égouts. Tiens un passage qui est tout dans le noir et t'es obligé de te faire aider par un machin esprit bizarre perse qu'on comprend pas ce que c'est. Voilà. D'ailleurs, à ce sujet, j'en profite, une petite touche sur l'univers, parce que c'est toujours cool.
Oui.
C'est vachement travaillé. Oui. Pareil, on se le disait un peu en préparation.
Documenté, ouais, ce qu'on disait en off, ouais.
Ils sont forts pour ça, Ubisoft, pour faire des jeux où ils se documentent vachement, et ils doivent avoir des spécialistes de, je sais pas quoi, de recherche historique.
Ils font appel à des historiens, la plupart du temps.
Bah là, si tu veux, t'as la Perse antique, c'est pas quelque chose qu'on connaît très bien.
Et pourtant, il y a beaucoup de vestiges, donc c'est pas mal documenté, l'air de rien.
C'est ça, et là, tu vois plein de trucs, t'as plein d'objets à récupérer qui correspondent à des trucs perses, t'as plein de textes à lire, qui sont des fables, parfois. Tu sais, des fois, t'as juste un poème perse, qui a été traduit, évidemment, mais t'as un poème perse. T'as des trucs sympas comme ça qui sont écrits sur des pierres, t'as des légendes, t'as les accomplissements du roi Darius, t'as les différents dieux, enfin voilà, le truc est hyper fouillé.
J'ai bien aimé les lettres aussi, où tu vois un peu les différentes couches sociales.
C'est ça. T'as plein de trucs comme ça, vachement bien foutus sur l'univers, donc si t'as envie de creuser, tu vois un petit truc qui brille quelque part, faut pas hésiter à y aller, t'as toujours une lettre, un truc où tu peux en apprendre un peu plus sur la Perse antique, et ça je trouve que c'est un côté aussi... Enfin, c'est très cool, l'univers en lui-même est vraiment fouillé.
Et ce qu'on disait, sur la Perse elle-même ou sur sa mythologie?
Exactement. Donc c'est vraiment la société perse ou la mythologie, plein de trucs marrants. En termes d'univers, c'est pareil, c'est peut-être plus proche d'un vrai prince de Perse que ne l'étaient les Prince of Persia sur GameCube et sur Wii, qui finalement c'est un peu les Mille et une Nuits plus que... Tu vois, c'est plus une ambiance...
C'est plus
arabe que perse, en fait.
Ouais, déjà, et puis c'est plus une ambiance de fable que...
C'est ça.
Voilà, je trouve ça très étonnant de la part d'Ubi d'avoir fait le même boulot qu'ils font pour un Assassin's Creed, en fait, pour une série qui n'a quasiment aucun background.
Oui, qui à la base n'a pas tellement de lore, s'il s'appelle Prince of Persia.
C'est ça.
C'est parce qu'il fallait que ça fasse un peu exotique, et c'est tout, quoi. Il n'y avait pas plus que ça.
Et d'ailleurs, ce pop, est-ce qu'il se... Il doit... Enfin, j'imagine, il se passe avant la trilogie des sables.
Alors, oulala.
Ah, ça va. Ou alors le temps s'en mêle tel un méli-mélo.
Alors, j'ai pas fini le jeu, et mon avis là pour l'instant, après Mortal, je te laisserai donner le tien, mon avis pour l'instant c'est, je m'en bats les couilles.
Bah, clairement, le jeu est tellement bon en fait que tu t'en fous quoi.
Oui, c'est accessoire, mais c'est juste pour se donner une idée, est-ce que... Surtout, est-ce que s'il continue la saga, comment ça va se passer?
Alors, je ne sais pas comment ça va se passer. J'espère qu'ils continueront. J'espère qu'on aura un 2, parce que franchement, c'est très cool. Mais je confirme, l'histoire, en fait, elle se tient toute seule.
C'est ça.
Paf. Même quand t'arrives à la fin.
Oui, alors, c'est une info importante. On n'est pas obligé de se taper toute la série pour comprendre quoi que ce soit et apprécier. Mais... Ça, c'est cool.
Oui, bien sûr.
Je peux apprécier ça.
Heureusement.
Comment dire ça? L'histoire est sympathique, mais c'est effectivement un accessoire. On va être clair. Tu as quelques petits retournements de situation que tu vois venir un petit peu de loin. T'en as un que moi j'avais pas vu venir. Il y a un truc où je me suis dit, ah tiens, ah d'accord, ok, bah, très bien. Bah, on fait ça comme ça.
Hein, oui, j'ai eu une scène où je me suis dit, ah what the fuck, mais bon, d'accord, ok.
Ok, voilà, c'est ça. Donc t'as quand même quelques passages un peu rigolos, mais c'est vrai que. Voilà, ce qui compte, c'est vraiment. On essaye vraiment de t'immerger dans l'univers. Et voilà, on essaie pas de te raconter une histoire. On te prend pas par la main. Je trouve qu'il est vraiment finalement assez différent de ce que fait Ubisoft d'habitude. C'est pas un jeu qui te prend par la main. En tout cas, il te donne pas l'impression de te prendre par la main.
Ce qui est rarissime chez Ubi, effectivement.
Mais en même temps, t'as toutes les aides, tous les trucs d'accessibilité dans lesquels Ubisoft est très très fort. Donc c'est cool. T'as envie d'être pris par la main, tu peux l'être.
Mais
si t'as pas envie, on te force pas.
Les avantages sont les inconvénients.
C'est ça. Et je trouve que là-dessus, c'est balèze. C'est pas un jeu dans lequel on a essayé de te raconter une histoire grandiloquente avec tout un tas de personnages. Non, non.
N'est-ce pas Assassin's Creed ?
Non, mais t'as envie de suivre l'histoire ? Tu trouves ça cool, machin ? L'histoire est cool, tu peux la suivre. Franchement, c'est intéressant. Il y a vraiment des passages sympas et tout. Encore une fois, chacun des immortels a sa petite personnalité. Les PNJ ont leur petite personnalité aussi. T'as la fameuse petite fille qui te file les cartes. Elle est un petit peu espiègle. Elle te fait un petit peu des blagues en mode comment t'as réussi à arriver jusque-là ? Dis donc, t'es drôlement fort. Ça fait 10 minutes qu'elle est là. Toi, t'en as chié des bulles à faire des dashs et des doubles sauts. Mais c'est quand même possible.
Donc... Est-ce que t'as percuté que le maître de guerre, enfin, façon Kaamelott, oui. Artaban ?
Oui.
T'avais déjà entendu Fier comme Artaban ?
Oui.
Eh ben, je savais pas que ça venait de la mythologie perse, moi.
Eh ben voilà, mais t'as plein de trucs comme ça, c'est vachement bien foutu. Et chacun a sa petite personnalité qui fait que, comment dire, celle qui a une lance, là, c'est la grande qu'on dirait une guerrière
africaine. Oui, c'est ça, oui.
Elle est stature de ouf, c'est pareil, elle a sa petite personnalité. Donc chacun des immortels, tu finis par les connaître un petit peu, tu t'attends à les trouver à tel ou tel endroit. Voilà. Bon, il va se passer des trucs après, ça. Pas forcément toujours bien se passer avec tous, on va dire.
Depuis le départ, depuis les trailers et tout ça, on se doute que il se passe des conneries et qu'au final, il y en a qu'on va devoir affronter. Et ça, c'était dès les bandes annonces et les trailers.
T'as aimé Senseiya ? Parce que tu vas kiffer, du coup.
Ouais, non, mais là, c'est clair qu'il y a des trucs comme ça. Hein, c'est vraiment. Et toujours avec une. Alors, ah oui, tu n'as pas affronté ce boss-là, Mecton.
On s'en fout, vas-y.
Ouais, je sais pas. Il y a un moment où tu finis par l'affronter, Artaban.
Ah, ok.
Bah oui.
Ok, tu vois, je pensais que ce serait le seul qui resterait.
Alors, tu les fumes tous.
Alors c'était une partie spoil. Hein.
C'était une partie. Non, il y en a un que tu fumes pas.
Non, mais comme on dit, le scénario, il est là pour te guider dans le jeu, mais c'est pas l'intérêt du jeu, quoi.
C'est pas l'intérêt du jeu, mais il y a quand même des trucs un peu sympas. Donc le gros costaud avec la hache, qui n'est pas une hache d'ailleurs, quand tu l'affrontes, tu vois que c'est pas une hache, qui est d'ailleurs un des boss les plus difficiles du jeu. C'est-à-dire que si t'en as chié avec le loup, putain celui-là, tu vas chier des bulles carrées, mais alors bien comme il faut. Hein, ah il est raide, il y a genre 4 phases, il est de plus en plus violent et tout. Et ce qui est très cool, c'est que bah, quand tu le bats, j'allais dire, il part avec dignité, c'est presque ça, c'est-à-dire que ça te fait quand même une petite larme parce que tu... Le truc, il part en mode « Ok, c'est cool, Sargon. Tu m'as battu. C'est que tu dois avoir raison. Allez, hop. Je te fais ça, t'inquiète.
Le
ça
gars va bien se passer. »
Mais ouais, carrément. Mais en fait, je trouve que là-dessus, le jeu est assez cool. Il te prend pas par la main. Il essaie de te raconter une histoire, mais il te la force pas. Je pense que ça, c'est quand même important.
T'as pas eu de tunnel de cinématique ?
Non.
Il y a rien de pire que ça, quoi.
C'est toujours très court.
C'est toujours très court, c'est toujours zappable. Toutes les cinématiques sont in-game, quasiment toutes. Il y en a une ou deux qui... Quasiment toutes les cinématiques sont in-game. Tu peux toutes les passer, même la première fois que tu les as vues. Il suffit de maintenir moins et tu passes la cinématique. Donc t'es pas obligé, encore une fois, tu veux pas l'histoire. T'as pas l'histoire. Ça, je trouve ça cool. Et en fait, c'est que des dialogues que tu peux avancer, tu vois. C'est pas... Tu peux faire... T'as lu le truc, le mec a pas fini de parler, mais tu fais B, voilà, c'est tout. T'as lancé l'histoire, t'as lu le truc, t'es bien. Je sais pas si on voulait aborder un autre sujet ou si on a à peu près fait le tour.
Tu parlais de quêtes secondaires, de trucs comme ça.
Oui. Hein.
Est-ce qu'on peut toucher un petit point ?
Oui. Ah oui, effectivement. Alors, la quête principale, c'est donc de sauver le prince de Perse.
Non !
Obviously. qui va vous mener dans plein de trucs. Vous allez donc explorer le mont Kaf, qui est lui-même très 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 bizarre. Vous allez voir qu'il y a vraiment. Je vais faire un.
encore un mini spoil, mais c'est vraiment pour le bien de tout le monde. Alors le passage de la mer, donc tout à droite de la carte, ça c'est pas un spoil, hein, dès le début quand tu commences à avoir la carte, quand on te donne l'œil du vagabond et que donc tu as la carte, tu vois que tout... En fait il y a une espèce de dessin de fond de la carte qui te donne une idée des zones.
Ça a une forme de vague, hein, la mer.
Donc en fait c'est la mer, c'est la mer déchaînée, et en fait c'est une mer en pleine tempête dans un orage, mais le temps est figé.
Ah, ça doit être trop classe, ça doit être comme trop classe dans... graphiquement. Quoi.
Comme dans Chrono Cross, la mer morte, là.
C'est à peu près le même concept. Donc, littéralement, tu marches sur les vagues.
Ah, ça doit être trop
classe. Tu marches sur les vagues, tu marches dans des bateaux qui sont à moitié pétés, t'as des mecs qui sont en l'air parce qu'ils se sont fait éjecter, t'as des cordages, t'as des éclairs, c'est...
Mais du coup, c'est magnifique. Annoncé dès le début, ça, parce que tu sais, au début, il y a une statue en train de s'écrouler, oui. Mais qui est figée.
C'est ça. Mais en fait, t'as plein de trucs bizarres avec le temps. Donc, vous voyez, on disait le sable du temps n'est pas là. En fait, effectivement, le sable du temps n'est pas là. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas des histoires de temps.
Et de sable. Ouais.
Et de sable. C'est juste que vous les manipulez pas là, sur ce truc-là. Alors, d'accord. Vous les manipulez pas, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres personnages qui les manipulent.
Ah.
Un spoil, wink wink. Voilà. Bref, et donc effectivement pour la partie PNJ, quête secondaire et autres, c'est souvent qu'on arrive dans une salle qui en général est tout au bout d'un niveau. Je crois qu'il y en a. En fait, il y a grosso modo un PNJ par grande zone du jeu. Donc genre le palais, le deuxième palais, les égouts, la mer,
ouais,
la montagne.
Par biome.
Voilà, par biome en gros, c'est ça. Tu as un PNJ qui va te filer des quêtes secondaires, qui peuvent être à l'intérieur du biome dans lequel tu es, ou au contraire complètement ailleurs. Et qui vont te rapporter des bonus divers et variés. Et c'est des quêtes en général, alors ça consiste souvent à trouver un objet et le ramener, hein, pas se cacher. Mais il y a des trucs un peu plus intéressants, genre il y a un machin qui te demande d'aller tuer un certain ennemi. Sauf qu'on te dit absolument pas ni où il est, ni comment faire. Et le comment faire est beaucoup plus inquiétant que le où il est. Voilà. Donc t'as des trucs comme ça, assez rigolo, t'as plein de choses à faire.
Oh oui, putain, j'ai eu le gardien de la prison, ça c'était génial.
Oui, ça c'est assez génial aussi. Donc pour expliquer, donc ça c'est pareil, c'est une des premières zones du jeu, tu es à la prison, et en fait, le gardien de la prison, il est aveugle, mais il t'entend. Et en fait, le fait qu'il t'entende est matérialisé par une bulle autour de lui. Et donc si tu es dans cette bulle, il t'entend, donc il va te poursuivre. Et s'il arrive à te choper... Et il arrivera à te choper, on va être très clair.
Je me suis fait peur avec ça. Faut absolument pas qu'il me touche, faut absolument que... Putain, grave. Il m'a touché, oh merde, je vais avoir l'écran de game over. Et non.
Tu atterris dans la prison.
Et oui.
Voilà. Et toute l'astuce, c'est que alors, du coup, c'est le boss du niveau, hein, on va pas se cacher. Mais du coup, bah, pour le battre, c'est un peu original, quoi. Il faut un certain pouvoir qui permet de lui échapper dans certains cas.
Et c'est qui, très, est très cool. Qui est annoncé par une lettre qu'on trouve par terre. Enfin voilà, tout se tient. Tout, tu creuses un peu, tout tient, c'est cool, quoi.
Le seul truc qui, moi, m'a fait chier dans ce jeu, je sais pas si, Mecton, tu as eu le cas, mais moi, je l'ai eu assez souvent. Ça m'est arrivé... Alors, j'ai eu deux plantages du jeu.
J'ai eu un freeze, tu sais, sur le PNJ avec la lune.
Voilà, le PNJ avec la lune, moi, il freeze systématiquement aussi.
Ouais, donc le PNJ avec la lune, en fait, j'ai eu déclenchement du dialogue, pas de dialogue... Les animations qui continuaient à tourner, mais j'étais bloqué là-dedans, quoi.
C'est ça. Moi, je l'ai eu assez souvent, ça. Et ça, c'est assez pénible. Surtout que c'est quand même un bug assez récurrent, parce qu'il y a d'autres PNJ où ça m'a fait la même chose. Donc les fameux PNJ qui filent des quêtes secondaires.
Peut-être été corrigé depuis, je sais pas. Mais...
Je ne sais pas, mais en tout cas, ça la fout mal, quand même.
Ah bah, quand ça m'est arrivé, ça m'a fait chier, ouais.
Alors moi, ce qui m'a fait chier, c'est que les plantages du jeu, il y en a un où je venais d'atteindre un truc super difficile à atteindre, et au moment d'ouvrir le coffre, bam. Voilà, je suppose que c'est un asset qui a mal chargé.
Ça, c'est bâtard.
Ça, c'est un peu bâtard. Voilà, donc c'est malheureusement, il y a quelques petits soucis de finition. Alors, on veut pas que ça vous bloque du fait d'y jouer, parce que franchement, c'est très,
non,
très cool.
Non, ça m'est arrivé une seule fois, hein, le PNJ de la lune.
Moi, ça m'est arrivé à chaque fois que je lui parlais.
Mais il y a peut-être moyen que ce soit, enfin, ce sera sûrement corrigé dans des mises à jour futures.
Probablement.
Et si ça se trouve, ton plantage, en fait, c'était les sables du temps, qui foutent la merde.
Tu reviens au début de quand t'as lancé le jeu.
Ça devient méta.
Quatrième mur, tout ça.
Ça m'étonnerait beaucoup.
Les mecs ont laissé un bug volontairement.
Qu'est-ce que t'as cru? Voilà. Bref.
Doublage. J'aime beaucoup aussi le fait qu'ils aient proposé... Ouais, qu'ils aient... Alors, le doublage français, cool. Franchement, très cool. J'aime beaucoup la petite fille dont tu parlais, qu'on retrouve régulièrement, j'aime beaucoup sa voix. J'aime beaucoup sa voix, ouais. Et donc le jeu est disponible en plein de langues, dont, et j'adore ce clin d'œil, alors je l'ai testé un quart d'heure de temps mais pour voir, mais j'aime beaucoup le fait qu'ils y aient pensé, il y a un doublage en farsi. Alors, et ça met une ambiance incroyable dans le jeu.
Pour Jean, farsi c'est pas la dinde, hein. D'accord, c'est la langue.
Non, j'ai déjà fait la blague en off.
Voilà, je sais, mais
t'as pas le droit de me la voler.
Je la fais pour te couper l'herbe sous le pied. Voilà, ça suffit maintenant. Oui, c'est cool. Alors, j'ai pas. Du coup, moi, j'ai regardé, mais je l'ai pas essayé. C'est un peu dommage parce que je pense qu'effectivement, ça doit donner un certain cachet.
C'est ça. Ça ancre encore un peu plus le truc dans mythologie perse. Tu vois.
Voilà. En tout cas, c'est très très cool. Donc, si vous aimez bien la mythologie perse, si vous aimez bien la mythologie tout court d'ailleurs, l'histoire est vraiment très cool à suivre. Il y a vraiment des passages assez mythiques. Je veux dire, la mer déchaînée, ça reste un. Vraiment, tu te prends une bonne claque dans la gueule parce que tu t'attends pas du tout à ça. Et quand tu débarques dedans, c'est vraiment genre waouh! Le truc pose ses couilles sur la table et il y va, quoi. Et ça, c'est cool. Le boss à la fin est très 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 cool. Les boss, de manière générale, sont cool. Le jeu est vraiment hyper bien. J'adore les. Enfin, tous les pouvoirs, en fait, concernent des déplacements. Et ça colle tellement bien au jeu. C'est tellement de bonnes idées. Il y en a vraiment un peu partout. Je ne tarirai pas d'éloge. Vraiment, le seul point noir, c'est ces quelques bugs. Mais pour le reste, c'est vraiment du tout bon.
Moi, c'est pas pour finir sur un point négatif. Hein. C'est une question. La quête du 100% me fait peur. Est-ce qu'elle te semble accessible ?
Très peur. Alors,
ouais.
Honnêtement, j'en sais rien. Moi, j'ai fini le jeu. J'avais 70% au compteur.
Et donc, t'as pu voir Sargon à poil ?
Non.
Mince.
Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Putain.
En maillot de bain.
À chaque fois, putain. En calcif de bain, voilà. Si, alors, fun fact, si tu le finis à 100%, il est en speedo.
Ouais. Super.
C'est absolument pas vrai, ne faites pas ça. Le 100% me fait très, 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 très peur.
Petit mot de mon vendeur. Ouais. Vas-y, vas-y.
J'ai vraiment l'impression d'avoir bien poncé le jeu, et quand j'ai vu 70%, j'ai fait « Ok, donc là, ça va être compliqué. »
Ouais, ça va être les pires pourcents, les 30 derniers.
Petit mot de mon vendeur, il m'a dit « Putain, ça fait plaisir de vendre des jeux Ubisoft qui soient pas un monde ouvert chiant et un truc original et plaisant à jouer. »
Eh ben, c'est une excellente conclusion, parce que c'est ça. C'est pas un monde ouvert chiant, c'est vraiment un Metroid-like, oui, pas de souci, mais qui emprunte beaucoup de choses, mais qui a sa propre personnalité.
Ce qui est rare.
Et l'univers est vraiment super. Tu vas pour le Metroid-like, pour moi, tu restes pour l'univers, et dans les dernières heures, tu kiffes pour... T'as une liberté de déplacement qui est... je sais pas si vous vous rappelez dans Metroid Prime 2, mais je pense surtout à Fusion, où quand t'arrives à la fin, t'es tellement un dieu vivant que finalement, tu traverses la carte parce que t'as la super course, t'as le super saut, t'as le machin, donc tu roules sur la carte quand t'es à la fin d'un Metroid. Bah là, c'est exactement la même chose, mais puissance 10. Parce que tu te déplaces tellement vite... Les premières zones du jeu où tu galérais parce que t'avais pas de double saut, t'avais pas de dash, machin, là tu les traces, mais pff, t'en as plus rien à branler. C'est juste tellement du bonheur que ça le fait. Et je pense que, pour moi, la motivation pour voir la fin, c'est ça. Parce que la carte gigantesque fait effectivement très peur. Je t'assure que t'es vraiment pas au bout. Je sais où t'es.
Oui, c'est parce qu'en off, je disais, j'ai mis le jeu en pause parce que la carte m'avait foutu le vertige et je voulais pas m'écœurer du jeu. Je voulais pas lui faire ce déshonneur, quoi.
Mais vas-y, hein,
mais j'y reviendrai avec plaisir. Ouais.
On y reste pour les déplacements. Pour un moment, t'as vraiment l'impression d'être un dieu vivant. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le thème de la fin du jeu. Spoil.
Oh.
Bref. Mais voilà, c'est très 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 cool. On vous le recommande fortement. On a fait 20 minutes de plus que l'horaire prévu, mais c'est pas grave.
Oui, et il est à prix... Pas budget, mais il me semble qu'il est...
Il est pas très cher. Hein. Il doit être
10-15 balles moins cher. Balles, ouais. Voilà, donc,
Ce qui est très chouette, mais c'est très chouette de voir déjà un revival de cette série qui, comme les sables, était oubliée.
À tous les gens qui disent le jeu a l'esthétique d'un jeu smartphone, niquez-vous.
Hein. Ah non, mais clairement, niquez-vous. C'est pas le cas du tout. Faut arrêter avec ça.
Et puis même, on s'en cogne, quoi.
Non, on s'en cogne, et puis en plus... Enfin, en vrai, le jeu est beau par son gigantisme, en fait, c'est ça qu'il faut voir. C'est vraiment l'ensemble qui est beau. Effectivement, les textures sont pas ouf, ok, très bien, c'est pas de la 4K.
Oui, et mais voilà. Sur le principe, tu les vois jamais de près, donc on s'en fout. Oui,
sauf dans les cinématiques. Donc des fois, ça fait un peu mal, mais...
Parce que c'est pareil sur les Donkey Kong Country Returns, tout ça, tu vas pas les regarder de près, elles ont pas besoin d'être belles.
On s'en fout, quoi. Laissez-vous transporter par le jeu, profitez des salles gigantesques qu'il y a, de ce monde complètement fou à explorer. Hein, profitez du truc, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment, vraiment le coup. Et en plus, le jeu tourne à 60 FPS, 1080p 60 FPS sur Switch sans problème. Franchement,
ça vaut
pas le coup de se priver. Exactement. Donc moi, c'est une très forte recommandation. Il a un gros pouce en l'air. Bravo Ubisoft Montpellier, bravo Ubisoft tout court d'ailleurs. Vraiment les gars, bien joué, vous nous avez bien trouvé le cul. C'est pas souvent qu'on peut dire ça d'Ubisoft. Voilà. Quand même. Bref, quant à nous, on va se faire de très très gros bisous. Et on va se retrouver dans 2 semaines, alors, la semaine prochaine en podcast et dans 2 semaines. Alors je précise donc, vendredi, il y aura très probablement du Prince of Persia The Two Thrones, donc Prince of Persia Les Deux Royaumes, puisque c'est le dernier Prince of Persia sur GameCube que j'ai pas fait en direct, donc comme ça ce sera fait. Mercredi prochain, il y aura du Metroid Prime, si tout va bien, en direct. Ce sera les streams du goûter avec Jean.
On a déjà commencé. Hein.
C'est déjà bien entamé, même, je dirais.
Faut juste que je corrige un tout petit truc et j'uploaderai les épisodes pour ceux qui veulent le re-suivre.
Tout à fait. Voilà, et j'espère pouvoir sortir un petit article sur Renderware la semaine prochaine, si vous ne savez pas ce que c'est que Renderware.
Et vous saurez.
Vous saurez ce que c'est. Voilà. En attendant, on vous fait de très 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 gros bisous et on vous dit à dans 2 semaines. Ciao tout le monde.
Ciao,
bisous. Bisous.